Bienvenue au balado Les Petits Caractères, l'espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Mon nom est Marianne Spear, je suis votre animatrice et aujourd'hui je suis accompagnée de Clarisse Enka, avocate, analyste à Options Consommateurs et médiatrice. Bonjour Clarisse.
Bonjour Marianne.
Donc, on débute l'épisode avec une chronique sur le projet de loi 8. C'est ce dont tu voulais nous parler aujourd'hui. C'est quoi le projet de loi 8?
Ben, en fait, je sais pas, peut-être que vous en avez entendu parler. Le projet de loi 8 vise à favoriser, en fait, vise à améliorer l'efficacité et l'accessibilité à la justice, notamment par la médiation et l'arbitrage.
Puis toi, c'est ce dans quoi tu spécialises, la médiation?
Oui, ben, entre autres, oui, je suis une médiatrice, là, dans la vie, donc j'ai étudié ça. Alors, ce qu'il faut savoir, là, à la base, c'est que déjà en 2016, là, le gouvernement avait modifié le code de procédure civile et avait introduit une nouvelle obligation qui est de considérer le mode privé de règlement de différends, de prévention et règlement des différends.
OK. C'est quoi les modes privés de règlement des différends?
Ben, en fait, c'est tous les modes dont fait partie la médiation et l'arbitrage.
OK.
Qui ne sont pas le tribunal, en fait.
Donc, je comprends.
Concrètement, avant de s'adresser à un juge, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir essayer de régler par nous-mêmes la situation. Ça peut être la négociation. Mais dans le cas précis du projet de loi 8, on parle de médiation, on parle d'arbitrage. Maintenant, dans les faits, c'est quoi la médiation?
Oui.
Ben, la médiation, il faut comprendre qu'on est vraiment loin du formalisme là, des tribunaux. Okay? Dans les faits, on se retrouve autour de la table avec un médiateur qui est là, qui nous aide à tenir un dialogue qui est structuré. Donc, c'est le médiateur qui préside la rencontre entre deux parties. Deux parties, donc, dans le fond, la personne qui peut faire une réclamation, par exemple, pour un bien, puis l'autre qui...
Se défend, en fait.
Exactement. Okay. Donc, alors, le médiateur est entre les deux, puis les aide à trouver une solution.
Le médiateur, ça peut être qui?
Ben alors, les médiateurs, parce que là, on parle de la Cour des petites créances. Oui. À la Cour des petites créances, les médiateurs, c'est souvent des avocats ou des notaires qui sont accrédités par leur ordre professionnel. Alors, ouais. Et à l'heure actuelle, la médiation existe quand même déjà à la Cour des petites créances.
OK.
Donc, une personne qui va déposer une demande à la Cour des petites créances, on va lui proposer la médiation, de participer à la médiation. Alors, le dossier va être référé à un médiateur. Et parfois même, une personne, le jour de l'audience, qui se présente là pour une audition devant un juge, on peut lui proposer quand même de se donner une chance de régler avec l'autre partie.
Mmh.
Et il arrive aussi parfois que le juge va convoquer les parties là pour une gestion, donc pour mettre leur dossier en état. Puis à cette occasion-là, la médiation peut aussi proposer. Donc c'est quand même un processus qui est de plus en plus connu, qui est de plus en plus intégré là au système de justice. Là.
Mmh. Puis le projet de loi 8, c'est ce qui est différent d'avant, c'est que là, il oblige les gens à considérer l'arbitrage puis la médiation avant d'aller devant la cour.
Oui, en fait, ma lecture là du projet de loi 8,
c'est
vraiment...
Parce que je comprends que c'est un nouveau projet de loi, fait que ça serait normal qu'il y ait encore des choses à ajuster. Là.
Ben c'est ça, il va y avoir un règlement qui va découler, quand le projet de loi 8 va devenir une loi, il va y avoir un règlement, dans le fond, qui va préciser, mettons, comment tout ça va être mis en œuvre.
Okay.
Mais maintenant, la particularité de ce projet de loi 8, là, c'est que la médiation, en fait, on veut prioriser dans l'instruction les dossiers qui sont passés par la médiation, OK?
Oh.
Autrement dit, mettons un dossier qui passe par la médiation mais qui ne réussit pas à se régler va avoir la chance de passer avant devant un juge plutôt qu'un dossier qui n'est pas passé par le processus de la médiation. Mmh. Donc on a plus de chances de passer en avance devant un juge que si on n'est pas passé par la médiation. Donc c'est un peu ça, c'est la priorité là qu'on veut donner dans l'instruction là des dossiers.
Okay. Fait qu'est-ce que tu dirais en tant qu'avocate que c'est mieux de privilégier toujours la médiation la médiation en fait vu que ça peut t'amener à avoir plus vite un juge si jamais la médiation ne fonctionne pas?
Ben, écoutez, c'est sûr que on n'a rien à perdre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a rien à perdre en allant en médiation parce qu'on se donne une chance de pouvoir régler par nous-mêmes. On dit souvent, tu sais, je veux dire, quand un juge va trancher un dossier, on ne sait jamais de quel bord un juge va prendre, OK?
Ouais.
Alors qu'en médiation, on a l'occasion d'écrire notre propre jugement si on veut. OK?
Je savais pas.
Ben, c'est ça. C'est un peu ça. Parce que on décide soi-même, puis avec l'autre, puis on essaie de tenir compte de ce qui est important pour chacun de nous, puis afin d'en arriver à une entente qui va être satisfaisante au final.
Ah, ben, j'avoue, hein, si on passe par la médiation, c'est vrai que c'est nous qui écrit un peu notre jugement parce qu'on le décide avec l'autre, en fin de compte.
OK. Mm-hmm.
Puis pour ce qui est de l'arbitrage,
ben, pour ce qui est de l'arbitrage, en fait, c'est aussi un mode privé de règlement des différends, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais la différence avec la médiation, c'est que l'arbitre tranche. C'est un peu comme un juge, OK?
Okay.
C'est un juge qui a un pouvoir qui est un peu plus limité qu'un juge traditionnel tel qu'on connaît. Il tranche, mais contrairement au médiateur qui est là juste pour aider, mettons, les parties...
à s'entendre.
Ben voilà, c'est ça. Donc, actuellement, il n'y a pas vraiment d'arbitrage à la Cour des petites créances. À la Cour des petites créances, quoique il existe des programmes d'arbitrage, comme le programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada, le PAVAC. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non, le PAVAC.
Oh, oui, c'est ça.
OK. Puis ça, si on a un problème justement là, avec notre véhicule automobile, est-ce qu'il y a un site là, sur le PAVAC où on est mieux d'appeler Option Consommateur puis de vous demander des infos là-dessus?
Ben, il y a un site pour le PAVAC, mais vous pouvez aussi appeler Option Consommateur. On peut vous donner exactement l'adresse du site. Ben, le PAVAC, c'est vraiment pour des véhicules neufs et ça vise vraiment des cas où est-ce qu'il y a eu des vis au niveau de l'assemblage ou dans les matériaux de véhicules ou dans la façon dont la garantie reliée au véhicule neuf a été appliquée.
Okay.
Bon, ça, c'est un programme qui est particulier. Je voulais donner un programme.
Je donne un exemple.
Oui, c'est ça, un exemple au niveau de l'arbitrage. Okay. Mais à l'heure actuelle, à la Cour des petites créances, ça n'existe pas, l'arbitrage. Donc, ce que fait le projet de loi 8, c'est qu'il veut mettre en place l'arbitrage, rendre ça automatique. Autrement dit, je dépose ma demande, je m'en vais en médiation. Si je ne règle pas en médiation, ben mon dossier va être référé automatiquement à l'arbitrage. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, ça veut dire que c'est automatique. Mais le problème, c'est que les gens doivent comprendre la différence entre l'automatisme et le caractère obligatoire, parce que ça, on ne le sait pas encore à l'heure qu'il est. Il va falloir que le gouvernement, quand ils vont travailler sur le règlement, qu'ils puissent préciser là pour que les gens comprennent. Et ça va être dans certains dossiers seulement. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas quels dossiers vont être référés automatiquement à l'arbitrage et quels dossiers ne le seront pas.
OK. Mais de manière générale, est-ce que ce projet de loi-là est une bonne nouvelle pour le consommateur?
Ben, de façon générale, on peut dire que c'est un projet de loi qui va dans la bonne direction, qui est un pas dans la bonne direction, dans le sens que le projet de loi offre différentes solutions, différentes possibilités aux consommateurs, parce que on sait que le domaine de la consommation, c'est un domaine où est-ce que, premièrement, l'information est très déficiente. En tout cas, il y a, tu sais, les consommateurs font partie des justiciables qui sont hétérogènes. Donc, il y a des consommateurs qui comprennent l'information de façon claire, puis d'autres qui ont besoin de plus d'aide. Alors, de pouvoir offrir différentes solutions comme ça, ben c'est bon parce que les gens vont pouvoir aller piger un peu dans ce qui leur convient le mieux. Puis, ce qui est intéressant aussi avec ce projet de loi, c'est la possibilité pour les juges de rendre des jugements sur le vu du dossier. Ça signifie que un consommateur qui n'aura pas besoin, qui voudrait obtenir un jugement, mais qui ne souhaiterait pas passer devant le processus de l'audition devant un juge, expliquer son cas, ben il n'aura pas à passer par cette étape-là parce qu'un juge va analyser le dossier puis va rendre un jugement, donc ce qui est très bien. Et on sauve du temps pour tout le monde, tu sais, les gens qui travaillent, monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas besoin de manquer une journée de travail pour aller à la cour.
Donc, si on déjà passe en médiation, le juge va pouvoir regarder le dossier de médiation au lieu de passer par tout le processus d'audition dont tu parlais.
Non, c'est pas le dossier de médiation parce que la médiation reste quand même confidentielle.
Okay.
Donc, le dossier est déposé à la cour, qui a été déposé à la cour au départ, qui est public.
Okay. Le projet de loi 8 va aussi permettre ça.
Ben, le projet de loi 8, ce qui va permettre, c'est qu'un juge ne puisse pas forcément appliquer, que les parties ne soient pas en cours, donc dans la salle d'audience, être entendu, puis que le juge décide suite à ce qu'il aura entendu. Donc le juge peut prendre le dossier, analyser, puis rendre un jugement sans que les parties soient obligées d'être dans la salle d'audience ce jour-là.
Ok, super. Excuse-moi, j'avais pas compris vraiment la différence. Fait que ça, c'est juste vraiment un autre aspect du projet de loi 8.
Exactement. Okay. Puis c'est certains dossiers seulement, des dossiers de 3 000 $ et moins. Pour les réclamations de 3 000 $ et moins.
Puis juste à titre indicatif, la petite créance, c'est pour des dossiers allant jusqu'à combien déjà?
C'est jusqu'à 15 000 $
les réclamations. 15 000 $. Ouais. OK. Bon, ben super. Ben merci beaucoup, Clarisse, de nous avoir parlé du projet de loi 8. On va suivre les développements assurément. J'imagine que vous allez en parler sur vos réseaux d'options consommateurs.
Oui, bien sûr. On suit ça de façon très soutenue. On aimerait savoir ce qui va arriver. Là.
Super. Merci beaucoup, Clarisse.
Merci à vous, Marianne. Au revoir.
Au revoir. On continue et j'ai une impression de déjà-vu parce que je suis maintenant accompagnée de Sylvie de Bellefeuille, avocate, conseillère budgétaire et juridique, pour parler encore une fois de voyage. Parce que pour ceux qui ont suivi toute la saison, là, dans les premiers épisodes, on a parlé de voyage également avec Sylvie. Mais là, on a un tout autre angle aujourd'hui. Mais Sylvie, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Alors aujourd'hui, tu vas nous faire ton top 3 de la pire à la meilleure façon d'acheter un voyage, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, on revient de la relâche et il y a déjà des gens qui commencent à planifier les fameuses vacances estivales et on sait, là, depuis le retour de la pandémie, il y a des gens qui recommencent à vouloir voyager. Maintenant, avec l'inflation, ben, il y a aussi une question de coût. Alors, les gens ont tendance à vouloir acheter, trouver le voyage au meilleur coût.
Oui.
Donc, ce qu'on va voir, en fait, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on regarde les différentes façons d'acheter un voyage pour essayer, dans le fond, de mieux en profiter. Je vais être transparente, je suis pas une grande voyageuse. Donc, c'est pas... dans le fond, moi, je vais aller plutôt en fonction de mon billet professionnel.
C'est ça, okay.
On va plutôt regarder les meilleurs trucs en fonction des lois puis des différentes protections qu'on peut avoir selon le mode qu'on utilise pour acheter nos voyages.
Ouais, c'est de la pire à la meilleure façon d'acheter son voyage selon une avocate en droit du consommateur.
Exactement.
Parfait.
Donc, ben en troisième place, on va y aller comme ça, c'est les achats par Internet, tu sais, les fameux sites où on peut avoir des comparateurs de prix pour essayer d'acheter le voyage le moins cher possible.
Mm-hmm. Mais ça m'étonne que ce soit ta troisième position parce que dans ma tête, c'était comme quasiment la seule option. Je suis pas une très bonne consommatrice de voyage, c'est ça.
En fait, il y a vraiment plusieurs façons d'acheter un voyage. Et souvent, les gens vont sur des sites web pour acheter leur voyage. Et nous, on a souvent des plaintes aussi de consommateurs qui ont acheté avec ces sites-là. Et ça peut poser problème. Le premier problème, souvent, c'est qu'il y a des sites qui sont situés à l'étranger. Après ça, faire appliquer les lois ici, ça peut être compliqué. Aussi, ce sont souvent des sites qui disent seulement agir comme à titre d'intermédiaire. Donc, ils vont acheter les billets pour nous, mais si jamais on a un pépin, on va dire, ben, va voir ton transporteur ou organise-toi avec ton hôtel. Donc, ça devient un peu compliqué.
Ça peut peut-être être un peu... Est-ce que ça se peut qu'une fois qu'on aille voir le transporteur ou l'hôtel, il nous dit « ben va voir ton intermédiaire », puis là, on est comme on joue au yo-yo de même?
On peut jouer au yo-yo comme ça, puis on a des situations aussi où des gens ont réservé, ont pensé réserver, finalement la réservation n'était pas faite ou n'était pas faite correctement, puis après ça, ben c'est un paquet de troubles. C'est sûr que quand on fait des achats par Internet, on a quand même la loi sur la protection du consommateur qui peut s'appliquer, ce qui fait qu'en cas de pépin, on peut, dans certaines situations, demander la résolution ou l'annulation du contrat. Je pense qu'on en a déjà parlé dans d'autres épisodes là, de ce principe-là.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, honnêtement, c'est soit l'épisode 1 ou l'épisode 2 de cette saison-ci. Fait que si quelqu'un veut aller l'écouter, là.
Effectivement.
Ah. Épisode 1, ça vient de me revenir comme par magie.
Donc, effectivement, donc on peut avoir dans certains cas justement des recours où on peut avoir accès, si on a payé par sa carte de crédit, à la rétrofacturation, donc on peut être remboursé. Le problème avec ça, c'est qu'on va se retrouver quand même le bec à l'eau, puis on ne pourra pas nécessairement voyager comme ce qui était prévu, donc ça peut être vraiment décevant.
De ce que je comprends, c'est comme tout un peu le service à la clientèle qu'on va avoir autour souvent de ces sites-là qui n'est pas très présent.
Exactement. Ouais. Puis l'autre problème aussi, c'est que souvent, on va mettre l'accent surtout sur le prix. Puis déjà, je dirais, il y a un drapeau rouge. Là, si vous allez sur le site les billets d'avion les moins chers au monde.com, il y a peut-être des chances qu'on se magasine des problèmes. Alors, il faut vraiment être critique, il faut regarder à ça. Bon, maintenant, si les gens tiennent absolument à utiliser ce genre de site-là, ben, il y a quand même des petites précautions qu'on peut prendre. D'une part, essayer de vérifier l'origine de la compagnie. Souvent, on va le trouver sur la section « À propos
okay. ».
On peut faire certaines vérifications parce qu'il y a des sites web où on peut acheter des billets qui sont en fait des agences de voyage. Je vais revenir tantôt sur les agences de voyage, mais il y en a qui ont des agences qui sont des agences de voyage qui ont un permis au Québec. Donc, à ce moment-là, on est beaucoup plus protégé.
Okay.
Et ça peut être quelque chose qui va être à privilégier. On peut aussi vérifier est-ce qu'il y a des avis en ligne. C'est sûr, les avis en ligne, faut prendre ça avec un grain de sel. Des fois, il peut y avoir des faux avis. Mais si déjà, vous voyez qu'il y a plusieurs drapeaux rouges, plusieurs personnes qui se plaignent, ben, ça peut peut-être être un signe qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas tout à fait
réglo. Ça arrive peut-être que des faux témoignages qui sont en faveur de l'hôtel ou du billet d'avion ou autre, mais d'avoir des faux témoignages qui sont en défaveur, ça, c'est un peu plus rare. T'sais. La compagnie ne va pas payer pour qu'on bâche sur elle.
Effectivement. Ben, des fois, il peut y avoir des concurrents qui peuvent faire des faux témoignages aussi. Donc, ça dépend. Donc,
t'as un esprit un petit peu plus tordu que le mien, Sylvie.
Probablement. C'est peut-être que je suis plus, plus méfiante de nature. C'est
absolument. T'en as vu plus, probablement, aussi.
Bah, c'est peut-être aussi une déformation professionnelle, là, mais c'est un peu mon métier de voir les problèmes à l'avance, donc c'est peut-être plus ça. Mais quand même, si on voit qu'il y a déjà plusieurs gens qui se plaignent de problèmes, surtout si c'est des problèmes récurrents, bah, ça peut être un petit drapeau rouge aussi. Il faut faire attention aussi à la modulation des prix en ligne. Quand on va sur des sites, il y a certains sites qui vont justement nous pister avec les fameux cookies puis tout ça. Et il y a une façon de facturer qui fait en sorte que quand on se présente plusieurs fois sur le même site, on va nous présenter des prix différents, généralement à la hausse, pour nous inciter à acheter plus rapidement.
T'es pas sérieuse.
Donc, il faut faire attention à ça parce qu'à ce moment-là, on a l'impression que les prix augmentent.
Oui.
Alors, l'idée, ça va être de dire, bon, ben là, je vois que les prix augmentent, je vais acheter maintenant avant que le prix continue de grimper. Donc, il faut faire attention à ce genre de pratique-là.
OK.
Donc, il y a cet élément-là qu'il faut faire attention
aussi. Ça fait vraiment longtemps que j'ai booké un voyage. C'était avant la pandémie, mais je pense que je me suis fait avoir avec ça.
c'est des méthodes qui sont vraiment répandues. Alors, et c'est pas pour rien. Hein, c'est parce qu'il y a des gens qui se font prendre. Alors, c'est pour ça que ça existe. Meilleur conseil, si jamais on a moindrement un doute, on n'achète pas. Il y a d'autres façons de pouvoir acheter des voyages.
Super. C'est quoi ta deuxième position?
La deuxième position, ben, c'est d'acheter directement auprès du transporteur aérien. Donc, parfois, il y a des gens qui vont avoir déjà des compagnies aériennes avec lesquelles ils sont habitués de faire affaire. Donc,
comme Transat, Sunwing, Air Canada, c'est des transporteurs, ça?
Exactement. Okay. Ça, c'est des transporteurs. Maintenant, il faut faire attention parce que certains transporteurs ont aussi des agences de voyage. Donc, on peut se retrouver avec, par exemple, là, pour reprendre les compagnies que tu as utilisées, mais on peut avoir Voyage Transat ou Vacances Sunwing, qui sont des agences de voyage. Mais on peut soit passer par agence de voyage et ou passer par juste le transporteur aérien. Donc, la protection qu'on a n'est pas la même selon qu'on achète directement, mettons, de Transat ou de Vacances Transat.
OK, je comprends. C'est ça, Sunwing puis Vacances Sunwing, pas la même affaire.
Exactement. Okay. C'est facile de se perdre dans tout ça.
Oui.
Donc, quand on achète directement du transporteur aérien, on a quand même certaines protections. Je ne suis pas en train de dire là, que c'est du vent. On a la fameuse charte des voyageurs dont on a déjà parlé dans le premier épisode. Donc, je ne vais pas revenir en long et en large sur les protections, mais il y a quand même certaines protections qui vont être là, notamment lorsqu'il y a un retard ou une annulation de vol, si jamais on perd nos bagages. Donc, il y a certaines choses qui sont déjà prévues dans cette fameuse charte des voyageurs-là.
Cool.
Si on fait des achats par Internet, on a quand même aussi la protection de la loi sur la protection du consommateur au Québec. Encore avec la rétrofacturation, des choses comme ça, dans certaines circonstances, avec comme implication qu'on risque de se retrouver encore le bec à l'eau si jamais on annule tout ça, au moins.
Tu sais, avec, dans le fond, ce que je comprends avec ta troisième position, les achats par Internet, c'est pas qu'il y a pas de garantie ou il n'y a pas de protection, c'est juste que c'est dur de la faire appliquer, de trouver la personne qui doit t'aider dans le fait de te faire rembourser ou autre, d'avoir de l'aide de la plateforme ou etc. Fait que c'est plus que c'est, ça revient, la charge est vraiment lourde sur le consommateur si son achat fonctionne pas quand c'est par Internet.
Oui, exactement. Puis on peut se retrouver dans des situations où on va perdre notre argent. Ouais. Où on va se retrouver avec des produits qui ne nous conviennent pas avec très peu de recours. Donc c'est ça qui est la difficulté. Quand on est directement avec le transporteur aérien, si jamais on a un pépin au niveau de l'application du règlement, ben on peut aussi porter plainte à l'Office des transports. Donc, il y a quand même certains recours qui existent, mais cette protection-là va viser seulement le vol. Donc, si on a perdu, par exemple, supposons on voyageait pour aller en croisière, ben si on a manqué le bateau, on a manqué le bateau. Donc, ça fait en sorte qu'on va perdre cet argent-là et ce ne sera pas le transporteur qui va couvrir ça.
Je comprends.
Donc, il y a une protection, mais elle n'assure pas nécessairement l'ensemble du voyage.
Ça ne peut pas se retrouver en position numéro un, là.
Exactement. C'est exactement. Vrai. Donc, c'est quand même une... C'est quand même, je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais, mais c'est peut-être pas la façon optimale d'acheter un voyage.
Quelle est la façon optimale, Sylvie?
Les agences de voyage. Elles sont disponibles en ligne. Ça peut être aussi des bureaux où on peut visiter des agents de voyage. C'est vraiment de loin la meilleure façon d'acheter un voyage. Savais-tu que pour pouvoir acheter, réserver des billets ou un hôtel au nom d'autrui, contre rémunération, ça prend un permis pour faire ça?
Non, vraiment pas. Je l'ai dit au début, là. Je pensais que les sites voyage le moins cher au monde, c'était un agent de voyage, tu comprends?
Donc, c'est là qu'est toute la protection aussi, parce que pour pouvoir faire ce travail-là, une agence doit détenir un permis.
Okay.
Et les agents qui travaillent pour ces agences-là, les conseillers en voyage, doivent avoir un certificat. Donc, le permis et le certificat sont des documents qui sont accordés par l'Office de la protection du consommateur, donc l'OPC.
Je savais pas.
Et ça va nous assurer de plusieurs choses. D'une part, qu'on a affaire avec quelqu'un qui est un minimum compétent, qui connaît son affaire. Souvent, les agents de voyage ont déjà voyagé, ils connaissent leurs fournisseurs, donc ils peuvent nous vendre vraiment davantage qu'est-ce qu'on souhaite. Parfois, on peut avoir des idées un peu sur les endroits où on veut aller. Des fois, on peut nous faire découvrir des belles choses qu'on n'avait pas prévues aussi. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment des spécialistes du voyage, d'une part. D'autre part, ça veut aussi dire qu'ils ont des normes de travail qu'ils doivent respecter. Alors, ça nous garantit également que les règles du jeu vont être suivies. Donc, à ce moment-là, on va être davantage protégés. Une autre chose aussi, comment est-ce que je fais pour savoir si quelqu'un
est une agence
de voyage,
ouais,
ou une entreprise est une agence de voyage? En fait, c'est très, très simple. On va sur le site Internet de l'Office de la protection du consommateur. On va à la rubrique, là, se renseigner sur un commerçant. On entre le nom de l'agence et à ce moment-là, on va pouvoir voir est-ce que cette agence-là a ou pas un permis. Donc, c'est
cool.
Une vérification qui prend quelques minutes à faire, qui est gratuite, qui est offerte à tout le monde.
Super.
Donc, super facile à faire. Puis en même temps, quand on va sur le site, non seulement on peut voir si cette agence-là a un permis ou pas, mais on va pouvoir voir est-ce que cette agence-là a fait l'objet d'infraction par l'Office. Donc, est-ce qu'il y a eu des pépins dans le passé? Et on peut voir aussi est-ce que l'Office a reçu des plaintes de la part de consommateurs concernant cette agence-là. Donc, c'est toutes des informations qui peuvent être très pertinentes et qui peuvent nous faciliter, dans le fond, le choix.
Oui, puis nous sécuriser aussi.
Absolument. L'autre élément qui est vraiment important, c'est que quand on paye une agence de voyage, on a l'assurance que notre argent va servir à payer notre voyage, pas la réservation de quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans la loi puis la réglementation, ce qui est prévu, c'est que notre argent doit être en très grande partie déposé dans ce qu'on appelle un compte en fidéicommis. C'est un compte de banque où l'argent n'appartient pas à l'agence, ce qui fait que notre argent est protégé et l'agence voyage ne peut utiliser cet argent-là que pour payer les services qu'on a achetés. Donc, par exemple, notre réservation d'avion, payer pour notre hôtel dans notre tout inclus, par exemple.
Là, je comprends que tu as dit que tu n'aimais pas voyager beaucoup, que tu n'avais pas voyagé beaucoup. Fait que peut-être que tu pourras pas répondre à ma question, mais est-ce que ça veut dire que, dans le fond, quand tu fais affaire avec une agence de voyage, t'as juste une transaction à faire, c'est avec l'agence de voyage, puis après, c'est elle qui book tes hôtels, etc.
Exactement.
Ah, fait que c'est un autre selon moi, avantage.
Bien, c'est un autre avantage parce que c'est cette agence-là qui va réserver justement les hôtels, qui peut aussi réserver certaines activités. Donc, c'est ça le travail d'un agent de voyage. Puis, il peut nous conseiller aussi sur le genre d'hôtel et tout ça. Ils ont aussi...
Est-ce que tu sais si les applications, tu sais, du style Airbnb, Hoppers, ce sont des agences de voyage. Il faudrait que j'aille voir sur le site.
Habituellement, non. Habituellement, non, parce que des Airbnb, dans le fond, c'est ce qu'on appelle surtout une application d'économie de partage. Donc, c'est des personnes privées qui vont mettre à disposition leur appartement, leur maison, leur chalet pour autrui. Donc, à ce moment-là, on n'est pas dans la même catégorie. Souvent, c'est même pas des commerçants.
Ouais.
Alors ça, c'est quelque chose... Oui, ça peut être le fun peut-être d'avoir un appartement quelque part dans un arrondissement in de Paris. Là. Ça, ça peut être peut-être intéressant, mais on n'a pas la même protection.
OK, parfait.
L'autre chose aussi qui est super importante avec les agences de voyage, c'est qu'on bénéficie d'un fonds, une protection supplémentaire qui est le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, le FICAV pour les intimes. Alors, ça, c'est une protection qui est obligatoire quand on passe par une agence de voyage et qui est vraiment abordable. Quand je dis abordable, c'est 0,35% du prix. Alors, en d'autres mots, pour 1 000 $, ça me coûte 3,5 $.
OK.
Donc, c'est quand même pas énorme.
Puis ça offre quoi, comme protection, ce fonds-là?
Bien, ça offre vraiment différentes protections qui sont super intéressantes. D'une part, si jamais, entre le moment où j'ai acheté mon voyage ou le moment que je pars, l'agence ferme, bien, mon argent, elle est protégée. Même si je suis à l'étranger puis que par la suite, l'agence ferme ou quoi que ce soit, bien, ça va être l'Office de la protection du consommateur qui va s'occuper du rapatriement. Donc, il y a cette protection-là.
OK.
Ça protège aussi dans les situations où on a un service qui est non reçu pour une raison extérieure. Par exemple, une grève d'un transporteur aérien, la faillite. Supposons que j'ai acheté des billets pour une compagnie aérienne, puis entre-temps, la compagnie aérienne a fait faillite. Je peux essayer de la poursuivre, mais mes chances de retrouver mes billes sont assez minces. Je peux à ce moment-là m'adresser au FICAV pour pouvoir avoir une indemnité. Tout à l'heure, quand on parlait des autres services, donc je disais, par exemple, si on manque le bateau parce que notre avion était en retard, bien ça, c'est couvert par le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont aussi importants. Et ça permet aussi, en cas de catastrophe naturelle, c'est un autre exemple. Donc, si, par exemple, là, je ne peux pas faire une activité parce que, il y a un volcan, il y a une température, il y a un ouragan, des choses comme ça. Mais ça aussi, c'est le genre de choses qui va pouvoir être couvertes par le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Et ça, cette protection-là, bien, c'est disponible si et seulement si j'achète mon voyage auprès d'une agence de voyage qui détient un permis de l'office. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est un vrai beau plus quand on part en voyage. Ça nous donne vraiment une protection supplémentaire et ça peut éviter là, qu'on se retrouve là, le bec à l'eau là, dans certaines situations.
Super. Ben merci beaucoup, Sylvie, de m'avoir éduquée sur les différentes manières d'acheter un voyage. J'en sais beaucoup plus désormais. Puis c'était un plaisir de partager avec toi.
Plaisir partagé, Marianne.
Sinon, merci de votre écoute. On se revoit pour un prochain épisode des Petits Caractères. À la prochaine!